Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, tu peux et dois être classé. Les films, les livres, les sportifs, les universités elles-mêmes. On peut aussi établir un classement parmi les juristes. À Rome, ils furent nombreux, célèbres, mais un domine tous les autres, Papinien. Il fut maître des requêtes, puis préfet de prétoire de 205 à 212, sous les princes Septime Sévère et son fils Caracalle. Parmi ses œuvres majeures figurent les questions et les réponses. Et ici, vous voyez deux hommages différents rendus à Papinien par les États-Unis à droite et par l'Italie à gauche. Je vous laisse en juger. Pour les anciens, son génie ne faisait aucun doute. Déjà en 293, environ 80 ans après sa mort, la mort de Papinien, l'empereur Dioclétien, consulté par un citoyen sur la règle appliquée dans une affaire de vente d'un bien appartenant à un pupille, lui recommanda à ce particulier qui lui demanda conseil, sans hésiter de suivre l'opinion de Papinien, qui était déjà mort, donc il le renvoyait à ses écrits, que l'empereur Dioclétien qualifie en l'occurrence de vir prudentissimus, homme d'un savoir exceptionnel, voire d'une parfaite sagesse. En somme, Dioclétien reconnaissait que malgré son rang d'empereur, il n'aurait pas pu donner une réponse meilleure que celle apportée par Papinien. Il ne faut jamais perdre de vue que les jurisconsultes n'étaient pourtant que de particuliers. Mais c'est précisément leur expertise et leur sagesse qui faisaient la force des juristes. Aujourd'hui, on parlerait d'autorité épistémique. La consécration suprême survint pour Papinien en 426, deux siècles après sa mort. Ses opinions étaient consignées dans ses ouvrages, mais les écrits d'autres juristes circulaient également, souvent porteurs de positions divergentes. Et cette variété d'opinions constituait à la fois la délice, surtout pour nous, et la croix de la littérature juridique. L'empereur Valentinien III, face à cette jungle d'avis divergents qui compliquait la tâche des juges, imagina un système aussi simple qu'efficace. L'arithmétique, c'est toujours très efficace. Il promulgua une loi ordonnant aux juges de suivre l'opinion majoritaire parmi les juristes. Donc, il faut que les avocats aillent chercher dans les ouvrages des juristes et qu'ils récoltent les opinions favorables à leur, disons, parti et on juge sur la base de la quantité. Mais que faire lorsque les avis ainsi repérés des juristes se trouvaient répartis de façon égale? Dans ce cas, vous l'avez déjà deviné, Valentinien III ordonna que prévale l'opinion soutenue par Papinien, reconnue comme jouissant d'une autorité supérieure à celle de tous les autres juristes. Bref, sa renommée était telle que dans les écoles de droit, les étudiants de troisième année furent appelés papinianistes. Un peu comme aujourd'hui, une promotion porte le nom d'un grand savant ou d'une figure historique. Et ceci est une page du manuscrit du Digeste conservé à Florence. C'est un manuscrit somptueux, l'un des plus beaux que l'Antiquité nous ait transmis et surtout qui a la chance inouïe d'être presque contemporain du Digeste. Donc ce n'est pas l'original du Digeste, mais c'est quand même très proche de l'ouvrage rédigé par Justinien et ses collaborateurs. Et vous voyez ici la liste des auteurs, c'est la page qui ouvre le digeste, la liste des auteurs qui ont été utilisés pour compiler cette anthologie de la littérature juridique romaine. Alors, c'est une liste par ordre chronologique, sauf les deux premiers, Julien et Papinien. Donc vous voyez que la renommée de Papinien traverse toute l'Antiquité, disons de Dioclétien jusqu'à Justinien. Alors sa réputation fut renforcée par sa fermeté morale. Papinien, de fait, ne connut pas toujours la faveur impériale. Il fut exécuté, oui, probablement en 212, sur ordre de Caracalla, pour avoir refusé de justifier l'assassinat de Geta de la part de son frère Caracalla et son rival dans l'Empire. Alors, son destin, le destin de Papinien, inspira même une tragédie au grand poète allemand Andreas Gryphius, le légiste magnanime, quelle merveille, ou la mort de Papinien, qui en fit l'emblème de l'attitude stoïcienne face à la tyrannie. Aujourd'hui encore, le nom de Papinien suscite une forme de révérence parmi les chercheurs, un frisson, mais pour une raison assez différente. Ces textes sont réputés très difficiles, parfois obscurs. Mais derrière cette complexité se devine une finesse juridique fulgurante. C'est toujours comme ça, lorsqu'on devine une fulgurance, on est attiré, même si on ne comprend presque rien. Son talent s'exprime clairement dans le passage que nous allons examiner aujourd'hui, tiré du livre 7 des réponses et transmis par le digeste de Justinien. Donc il faut que vous imaginiez que le texte que nous allons lire est tiré du manuscrit que je vous ai montré. Donc pas dans la même page, mais dans le même manuscrit. Alors comme souvent, l'intérêt de ce texte tient à une singularité, à l'irruption de l'inattendu. Au cœur même d'une question de droit, Papinien évoque le lit nuptial qu'Ulysse avait construit à partir d'un olivier vivant et qui, au chant 23 de l'Odyssée, joue un rôle central dans les joutes amoureuses entre Ulysse et Pénélope, réticente à reconnaître son mari dans l'étranger débarqué à Ithaque. L'originalité de ce texte de Papinien réside précisément dans l'entrelacement subtil entre l'argumentation juridique et la référence homérique. Je voudrais vous montrer comment cette allusion poétique laisse affleurer, par touches fines et métaphoriques, toute une longue histoire de la manière dont la richesse était conçue et utilisée à Rome et la façon dont les juristes classaient cette même richesse en tant que véritable technicien de la richesse, j'ose dire. Retraçons brièvement la scène qui constitue le sous-texte de Papinien. Alors, nous le savons tous, le point culminant de l'Odyssée, le récit presque sans fin des péripéties d'Ulysse pour rentrer chez lui, à Ithaque, est la rencontre avec Pénélope. Pas moins de 5 chants de l'Odyssée sont consacrés à cette rencontre. Depuis le moment où Ulysse, naufragé, aborde les rivages d'Ithaque, jusqu'au massacre des prétendants de Pénélope, ici représentés. C'est précisément au chant 23, après le carnage, que se joue la scène la plus subtile et passionnante, le jeu très doux et très sérieux, par lequel Pénélope met l'étranger à l'épreuve afin d'être certaine qu'il s'agit bien de son mari. Plus elle l'avait attendu, plus elle voulait être sûre que son cœur ne la conduirait pas à l'erreur sous l'effet d'un désir trop ardent. Depuis des siècles, chaque lecteur interprète à sa manière cette anagnorisis. En grec, c'est un mot qui signifie reconnaissant. En latin, on dirait agnitio, agnition. Chaque lecteur interprète de façon différente, à sa manière, les oscillations qui composent ce moment de révélation. Parce qu'il s'agit d'oscillations profondément humaines et qui parlent à chacun selon sa propre expérience. Alors, parcourons le récit de plus près. Averti par la fidèle nourrice Oriclée du retour d'Ulysse, Pénélope descend dans la salle du foyer et s'assied en face de lui. Encore incertaine sur ce qu'elle doit faire. L'interroger à distance ou bien s'approcher pour lui prendre les mains et lui embrasser la tête, ni l'un ni l'autre. Le dévoilement doit être un processus plus long, plus subtil, qui est déjà en soi une forme de change amoureux, avec cette particularité, pouvoir être interrompu à tout moment par Pénélope si elle n'est pas convaincue. Mari et femme se répondent d'égal à égal, en ruse comme en prudence. Et c'est justement Pénélope qui ouvre le jeu. Pour assurer une reconnaissance certaine, elle dit qu'elle fera appel à des signes secrets, connus des deux époux seulement. Séma. Séma, c'est le mot signe. C'est un mot qui réapparaît quatre fois dans la suite, dans très peu de vers. C'est vraiment le mot-clé. Et pourtant, l'entretien avec Ulysse, que Pénélope avait commencé, semble tout de suite mal tourné. Car Ulysse, comme s'il était irrité par la froideur de Pénélope, donc je vous l'ai dit, elle était vraiment très hésitante, elle n'a pas embrassé, donc vraiment, il a pu dire qu'elle était très froide. Et donc, il déclare qu'il préfère mettre fin à la rencontre et aller dormir. Et voici ces mots. « Allons, nourrice, Euryclée, prépare-moi un lit pour que je m'y couche, car le cœur qu'elle, Pénélope, porte dans sa poitrine est de fer. » Mais cette dureté d'Ulysse n'est au fond, selon moi, qu'une stratégie. Par cette rudesse calculée, il offre à Pénélope l'occasion de le mettre à l'épreuve, une occasion qu'elle saisit immédiatement. Elle ordonne à sa servante Oriclée de déplacer le lit nuptial hors de la chambre où ce lit se trouve et de le préparer pour la nuit, pour Lot, où il ira se coucher seul. Alors, cet ordre agit comme une déflagration dans l'esprit et le cœur d'Ulysse. Déplacer le lit, le sortir de la chambre, c'est impossible. Ô femme, vraiment, tu viens de prononcer des mots douloureux pour mon cœur. Qui donc aurait pu déplacer ailleurs notre lit ? Même pour un homme habile, ce serait chose impossible, à moins qu'un dieu n'intervienne lui-même pour le transporter facilement dans un autre lieu. Aucun mortel vivant, fût-il dans la force de l'âge, ne pourrait les bouger si facilement. Un grand signe, Séma, en effet, y est inscrit dans ce lit inamovible. La description du lit nuptial à laquelle Ulysse se livre aussitôt, révèle pourquoi le lit est inamovible et a pour fonction, justement, de révéler ce secret, ce signe, ce schéma. Et c'est à ce discours que Papinien fera ensuite référence. Lisons-le. Je l'ai fait moi-même, ce lit, dit Ulysse. Alors, ce discours, comme il va expliquer la fabrication du lit, a pour effet ou pour cadre de ramener Pénélope au début de leur mariage, parce que c'était le moment où ils allaient bâtir leur maison pour vivre ensemble. Je l'ai fait moi-même, ce lit, nul autre. Un arbuste d'olivier à feuilles épaisses poussé à l'intérieur de l'enclos, vigoureux, florissant et fort comme une colonne. Autour de lui, j'ai construit notre chambre. Jusqu'à l'achever, de blocs de pierre compacts, et j'ai couvert solidement le tout. J'ai posé des portes bien jointes, étroitement ajustées. Puis j'ai coupé au-dessus la cime de l'olivier feuillu. Ayant écarri les bords de la souche depuis la racine, j'en raclai le tour avec le bronze. Avec soin et savoir-faire, je l'ai mis d'aplomb à la règle, l'ayant façonné un pied de lit, j'ai percé tout avec une tarière. C'est à partir de ce tronc que j'ai commencé à façonner le lit jusqu'à l'achever, en ornant d'or, d'argent et d'ivoire. D'or, d'argent, d'ivoire. J'ai tendu une cingle de cuir de bœuf teinte de pourpre éclatante. Voilà le signe. Voilà le signe que je mets pour toi en lumière. Je ne sais même pas, aux femmes, si notre lit est encore en place ou si déjà quelque homme l'a déplacé ailleurs, ayant scié les racines de l'olivier. Vous avez déjà tout compris, la métaphore, tout ce que ça veut dire. Alors, il s'agit d'un exemple parfait de ce qu'on appelle ekphrasis, c'est-à-dire une sorte de détour, mais de description littéraire détaillée, vivante d'une œuvre d'art, qui cherche à la rendre présente aux yeux du lecteur, comme s'il la voyait. Ulysse, en focalisation interne et protagoniste de son propre récit, décrit avec précision la construction du lit. Et comme l'a très bien dit Jean Starobinsky, cette narration de l'activité extérieure vaut ici expression de son identité interne. Ulysse insiste d'ailleurs sur l'éclat de son œuvre. L'or, l'argent, la brillance du cuir illuminent la scène et devraient dissiper le doute de Pénélope. Tel est le signe que je mets pour toi en lumière. Et pourtant, l'émotion qu'on ressent chez Ulysse, surtout à la fin de cette description, est sincère. Car Pénélope avait commandé que le lit soit déplacé. Et donc, quand il entend ça, il ne sait pas encore si c'est une ruse de la part de Pénélope ou si c'est vrai. C'est-à-dire que le lit peut être déplacé. Et donc, quelque homme l'a déplacé ailleurs, ayant scié les racines de l'olivier, les racines de l'amour, du mariage. Donc, son emportement est sincère. Le lit déplacé devient la métaphore d'un possible changement de partenaire de la part de Pénélope. Cette inquiétude se dissipe aussitôt face à la réaction de Pénélope. Seul son mari peut connaître le secret de la fabrication de leur lit. Donc, c'est bien lui. Il n'y a plus de doute désormais. Ce que le cœur déjà disait à Pénélope, maintenant, aussi la raison, la preuve, le lui confirme. Est-elle accomplie, enfin, le geste retenu depuis leur rencontre, elle s'approche et dépose un baiser sur la tête d'Ulysse, dit Homère. Alors, ici, c'est la représentation la plus, disons, courante de cette rencontre, mais vous voyez très bien, c'est tout à fait moderne. Ensuite, elle a été, disons, rééditée plusieurs fois et façonnée même pour la faire apparaître comme si elle était, disons, ancienne, mais c'est une représentation moderne. Si cette tension entre les deux protagonistes démontre quelque chose, ce n'est assurément pas, à mon sens, la victoire de l'un ou de l'autre, mais leur parfaite égalité dans la ruse, la prudence et la manifestation invisible aux autres de leur complicité amoureuse. Et c'est à cette scène emblématique que fait référence Papinien, dans le passage qui constitue l'objet véritable de notre séance, tiré du livre septième de ses réponses, ouvrage probablement rédigé entre 206 et 212 après Jésus-Christ. Il est tenu pour acquis que les tables de n'importe quel matériau, y compris en argent ou encadrées d'argent, font partie du mobilier domestique. Le mot latin que vous allez réentendre plusieurs fois aujourd'hui est supellex. Donc j'ai traduit en français mobilier domestique. Le mot latin est supellex. Et supellex, c'est le pivot, c'est le mot-clé autour duquel ce passage et tous les passages que nous allons lire tournent. Il est tenu pour acquis que les tables de n'importe quel matériau, y compris en argent ou en cadré d'argent, font partie du mobilier domestique, de la supellex. En effet, l'époque postérieure a admis que même les lits d'argent ainsi que les candélabres d'argent relèvent du mobilier domestique, de la supellex. D'ailleurs, Ulysse avait lui-même orné d'or et d'argent un lit construit à même les troncs d'un arbre vivant que Pénélope reçut comme signe permettant de reconnaître son mari ainsi que le veut Homère. Alors, l'ouvrage d'où ce texte est tiré, s'intitulant Réponse, c'est comme si Papinien répondait à une question implicite, qu'on ne trouve pas ici, c'est la question du client, mettons, question implicite de ce genre. Une table relève-t-elle toujours du mobilier domestique, de la supellex, quelle que soit la matière dont elle est faite, même si elle est en argent ou encadrée d'argent, ou pas? Alors, quel est l'intérêt de cette question? Au-delà de son allure apparemment théorique, il s'agit d'un intérêt éminemment pratique. La question se pose notamment lorsqu'un testateur lègue à une personne son mobilier domestique, sa supellex. Donc, il faut comprendre que dans le testament, on ne lit que ce mot, lego titio supellectilem meam. Donc, le legs est défini par ce mot. Je lègue à un tel mon mobilier domestique. Alors, imaginons qu'au décès du testateur, lors de l'ouverture de la succession, l'on découvre chez le défunt qu'il était, entre autres, propriétaire d'un lit en argent. Donc, on rentre dans les lieux, on se rend compte qu'il y a un lit en argent. Alors, le légataire est-il en droit de réclamer la remise de ce lit au titre de mobilier domestique qui lui revient, ou faut-il, en raison de la matière précieuse dont ce lit est fait, le rattacher non à la soupellex, au mobilier domestique, mais par exemple à l'argenterie, qui, en revanche, n'est pas comprise dans le legs, parce qu'on ne lit pas dans le testament « je lègue un tel mon argenterie », on lit « je lègue un tel mon mobilier domestique ». Donc, il faut choisir où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on classe le lit en argent. L'enjeu interprétatif portant sur la qualification juridique d'un bien déterminé réside ainsi dans un conflit d'intérêts patrimoniaux. Donc il y a un conflit, comme toujours, derrière les textes des juristes, il y a toujours un conflit d'intérêts, entre l'héritier d'une part, qui souhaite garder pour lui le lit en argent, il dit non, c'est pas toi, parce qu'il t'a légué les mobiliers domestiques, mais à l'évidence, c'est un argent, c'est plutôt de l'argenterie, c'est pas toi. De l'autre côté, il y a le légataire qui dit ben « bon, c'est un lit, donc c'est du mobilier domestique ». Alors, le contexte ainsi établi, je sais toujours que quand on lit une question posée par un juriste, on se dit « mais comment est-ce qu'on en sort ?» Parce que c'est toujours, il faut avoir des critères. Et donc, il faut s'interroger sur les critères qui permettent de trancher ce conflit. Alors, disons-le tout de suite, Papinien n'opérait pas dans un champ intellectuel sans repère, dans le vide. Donc, ce n'était pas qu'on lui posait cette question, c'était la première fois qu'on posait cette question au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, et donc que c'était à lui de trouver, à repérer les critères. L'arrière-plan de sa réponse est fourni par une définition de soupellex, de mobilier domestique, qui circulait à son époque et que nous voyons dans ce texte d'un autre grand juriste, Sels, qui a vécu plus ou moins un siècle avant Papinien. Tubéron, dit Sels, Tubéron tente de définir la soupellex de la manière suivante. C'est une sorte d'équipement appartenant au père de famille. Et vous ne faites pas dévoyer par ce mot père de famille, peut-être aussi une femme. Ce qui est important, c'est qu'il s'agisse d'une personne qui a une pleine subjectivité juridique, donc qui est, pour ainsi dire, maître de lui-même ou d'elle-même. Donc, normalement, on appelle cette figure le père de famille, mais cela peut être aussi une femme qui avait un patrimoine et qui, à son décès, dispose de ce patrimoine. Donc la définition tourne autour de cette figure un peu archétypique, mais faut pas trop aller dans une lecture, genrée. Tubéron tente de définir la soupellex de la manière suivante. C'est une sorte d'équipement appartenant au père de famille, composé de biens destinés à l'usage quotidien, qui ne relève d'aucune autre catégorie déterminée, comme par exemple les provisions, les denrées, l'argenterie, les vêtements, les parures, les instruments agricoles ou domestiques. Notez d'abord que Sels s'appuie ici, lui-même, sur une définition élaborée par un juriste intérieur. Donc, nous sommes en train de commenter un texte de Papinien. Nous avons un juriste qui lui fournit des critères, c'est Sels. Il y a entre les deux, entre Papinien et Sels, disons, un peu moins qu'un siècle d'intervalle. Donc, Sels est plus ancien, vient avant Papinien, qui le suit d'à peu près un siècle. Mais Sels, lui-même, fait référence à un juriste beaucoup plus ancien, Tubéron, qui a vécu à l'époque de César et d'Auguste, donc fin République, début du Principat. Donc, disons, presque deux siècles avant Sels, presque trois siècles avant Papinien. Ça, c'est une question fascinante. Comment est-ce qu'un système juridique peut s'appuyer sur des opinions des particuliers qui perdurent, dont, disons, la vigueur au sens juridique, mais l'efficacité perdure si longuement. C'est vraiment une question que peut-être j'examinerai l'année prochaine. Il faut qu'on s'interroge sur le cours de l'année prochaine, quand même. Hein. Bon, mon collègue John Scheid le sait très bien, c'est un peu la délice, la croix du collège. Lorsqu'on est en train de faire ce cours, il faut déjà penser au cours qu'on va vous proposer l'année prochaine. Deuxième point, notez que Sels dit que Tubéron a essayé, a tenté de définir qu'est-ce que la supellex. Il est donc conscient qu'il ne s'agit pas d'une définition parfaitement étanche ni irréprochable. Il ne dit pas, il définit comme ça, donc on accepte. Il dit, il a essayé, donc on n'a pas de meilleur. Mais une meilleure définition, mais quand même c'est une tentative. Alors voyons comment Tubéron s'est débrouillé. Alors la définition de Tubéron relatée par Sels se compose de deux parties différentes. Il y a une partie disons, affirmative, positive et une partie restrictive. Alors, la partie, pour ainsi dire, positive, définit la supellex, le mobilier, comme une sorte d'équipement du père de famille composé des biens destinés à l'usage quotidien. Donc, c'est la destination, c'est la fonction qui est en premier plan. La partie négative, deuxième partie de la définition, dit qu'il doit s'agir de biens qui ne relèvent d'aucune autre catégorie déterminée, tels par exemple les denrées, l'argenterie, les vêtements, les objets d'ornement, les équipements agricoles ou de la maison. Cette seconde partie de la définition intègre déjà, pour ainsi dire, la conscience qu'avaient les juristes de l'existence de cas limites. Donc, vous voyez, s'il y a ces deux points de repère, c'est parce que il y a, et surtout la deuxième partie, il s'agit de biens qui ne relèvent pas de ces autres catégories, mais qui pourraient effectivement poser des questions. Et si vous vous demandez en quoi, les équipements agricoles ou de la maison, notamment de la maison, se différencient-ils du mobilier domestique, pensez par exemple à un tableau. Alors un tableau, c'est disons de l'équipement de la maison, mais cela ne relève pas de la supellex. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est destiné à un usage quotidien. Donc, pour différencier, parce que c'est la seule catégorie qui, à mon sens, pourrait vous interroger et peut-être vous sentez trop de ressemblance avec la soupelex, avec le mobilier domestique, l'équipement domestique, mais justement, en lit, ça relève de la soupelex, un tableau accroché au mur, c'est cet équipement de la maison. Donc, la façon dont cette définition de Tubéron en deux stades est conçue montre effectivement la complexité de cette définition et l'existence et la conscience de la part des juristes qu'ils existaient des cas très difficiles et surtout, elle montre la conscience de la difficulté de définir par rapport à la variété du réel. C'est l'étonnement que Hitchcock a montré devant une vitrine avec des objets qui, à mon sens, relèveraient pour la plupart de la soupelex. Donc vous voyez, c'est le réel avec ce foisonnement. Il s'agissait d'une exposition, si je ne me trompe pas, à Bologne, en Italie, dans les années 50. Il y avait eu une fouille, et on avait repéré tous ces objets. Et donc c'est un peu ça, l'étonnement devant le foisonnement du réel et la nécessité de l'enfermer dans une vitrine, dans une définition. La définition fonctionne comme une sorte de boîte où l'on enferme les objets. Et en les enfermant dans cette vitrine, on en exclut d'autres. Donc c'est toujours une sorte de délimitation. Par ailleurs, vous savez que définition contient le mot finis en latin qui dit justement le confin. Donc c'est toujours une sorte de délimitation, périmètre. Mais Sells ne se borne toutefois pas à fournir une définition, pour ainsi dire, statique. Il introduit également un critère dynamique, diachronique, voire historique. Il n'est pas étonnant que selon le mœurs de la cité et l'usage des choses, la dénomination en ait changé. Autrefois, on se servait d'une soupelex, d'un mobilier domestique en terre cuite, en bois, en verre ou en bronze. Aujourd'hui, on utilise un mobilier domestique en ivoire, en écaille, en argent et même désormais en or, en pierre précieuse. C'est pourquoi, il termine, il faut considérer l'espèce ou l'aspect des objets plutôt que leur matière. Et se demander s'il relève du mobilier domestique plutôt que de l'argenterie ou du vêtement. Alors, c'est évident, c'est le commentaire, c'est l'ajout de Sells à la définition de Tubéron. Donc il a introduit, après la définition statique, aussi ce regard diachronique. Donc il dit effectivement il y a eu un changement. Et pourquoi ? Il introduit cette dimension historique qui est précieuse. C'est vraiment un des cas les plus brillants de la conscience historique des juristes romains qui introduisent dans un discours technique aussi une vision rétrospective. Pourquoi il fait ça? Parce que ça met en relief la difficulté, c'est-à-dire que cette catégorie inclut des objets et qui sont un changement perpétuel, continu, c'est-à-dire ça dépend aussi des mœurs de la cité. Donc, au départ, on utilisait du mobilier domestique en terre cuite, et ensuite, c'est l'argent ou l'or ou d'autres matériaux précieux. Alors, c'est pour ça qu'il fait cette remarque, et qu'est-ce qu'il en tire? Qu'il faut donner la priorité à la fonction par rapport à la matière. Alors, pour parler de la fonction, le juriste emploie ici le terme species, qui signifie à la fois aspect extérieur, ça vient de spectare, les spectateurs sont ceux qui regardent, et la species est ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Mais ce mot signifie aussi appartenance à une espèce. Species, c'est le mot espèce. Ainsi, un lit restera toujours un lit, il relèvera de la catégorie lit s'il en a l'aspect d'un lit, et donc le lit appartiendra toujours à cette espèce. Donc vous voyez pourquoi species a ce statut, disons, un peu, disons, pas ambigu, mais double, indépendamment de la matière. C'est la fonction, c'est l'aspect, c'est l'appartenance à la catégorie. Alors, c'est sur le fondement de cette définition, si finement construite qu'elle semble presque en mesure d'endiguer l'infinie diversité des choses, celle qui laissait Hitchcock dans la stupeur, c'est sur le fondement de cette définition que Papinien essaye de répondre à la question qu'on lui avait posée. Et donc, revenons à son texte. Et si on le lit, si on lit le départ, forcé de constater que ce texte ne porte pas sur un cas incertain sur lequel le juriste aurait été invité à formuler une opinion nouvelle. La réponse de Papinien concerne le cas des tables, en latin mensa, mense, à propos duquel, de ce cas, la solution était déjà admise sans contestation. Donc il n'y avait pas de doute là-dessous, comme le montre le mot placet en latin. Il a plu, on est tous d'accord. Il est tenu pour acquis que les tables de n'importe quel matériau, y compris en argent ou encadrées d'argent, font partie du mobilier domestique, de la supellex. Bon, pas de questions. Alors, dès lors, Papinien pourrait se dispenser de toute motivation. Le fondement de sa réponse réside déjà dans l'autorité d'une opinion unanimement, paraît-il, partagé par les juristes avant lui, Plaquet. Tout le monde est d'accord, il a plu. D'autant plus que cette réponse s'accorde parfaitement avec le principe que nous avons appris du texte de Sels, c'est-à-dire ce qui compte, c'est la fonction de l'objet, sa species, son aspect, et non la matière dont cet objet est fait, fût-elle précieuse. Mais Papinien ne s'en satisfait pas de ce point de départ. Il semble vouloir pousser les raisonnements plus loin, et cela au fil de plusieurs étapes. Alors, il se déplace d'abord sur le terrain de l'analogie. Du cas des tables, Papinien en vient à celui des lits et du candélabre. Il dit, en effet, une époque postérieure admet que même les lits d'argent ainsi que le candélabre d'argent relèvent du mobilier domestique. Donc, pas seulement les tables, mais aussi les lits et le candélabre. Donc, il y a une analogie entre des objets différents. Donc, on lui avait demandé à propos de tables, mais il répond, mais aussi les candélabres et les lits. Mais ce n'est pas seulement une analogie qui se ramifie vers d'autres objets, mais son raisonnement s'étire le long de l'axe du temps, faisant apparaître deux plans temporels. Car à propos des lits d'argent et des candélabres, il introduit une précision chronologique, il dit une époque posterior etas. C'est une époque plus récente qui a souhaité intégrer les lits et les candélabres à la supellex. Cela implique qu'avant, il était manifestement considéré hors du mobilier domestique, hors de cette catégorie. Donc, vous voyez une époque plus récente à intégrer les lits et les candélabres, qui en étaient évidemment exclus. La réponse de Papinien s'ouvre ici donc comme à une forme d'histoire économique, ou plutôt, ce serait plus correct de le dire, une vision morale déguisée en histoire économique, opposant la frugalité des origines à l'altération progressive de mœurs par la richesse. Mais une question se pose. À quelle époque cette époque postérieure renvoie-t-elle? Est-ce qu'il y a la possibilité de déterminer sur le plan historique et chronologique? Alors, à partir du texte de Papinien, nous n'en savons strictement rien. C'est-à-dire, c'est évidemment quelque chose qui s'est passé avant Papinien, mais qui en sait? Il est pourtant frappant que cette même expression « posterior etas » se retrouve seule autre occurrence dans toute la littérature latine, donc il n'y en a que deux, dans un passage de Valère Maxime. Valère Maxime, c'est un écrivain actif au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a fait une collection, une anthologie d'anecdotes qui ont toujours un fort coloris moral. Donc, ce passage de Valère Maxime oppose précisément la frugalité des objets domestiques romains, en l'occurrence la vaisselle, c'est important, au luxe grec. Donc, il y a cette opposition. On pourrait bien croire que, lisons tout de suite le nom Sextus Elius, il y a une lacune ici, une erreur de la transmission du texte, on pourrait bien croire que Sextus Elius avait été l'élève de Curius et Fabricius. Il s'agit de deux figures, pas mythiques, historiques, qui incarnaient la frugalité. Donc Sextus Elius, le protagoniste de cette anecdote, est présenté par Valère Maxime d'emblée comme un peu l'héritier, le continuateur de cette lignée d'hommes dont la frugalité était devenue légendaire. Lorsque Sextus Elius était consul, la nation étolienne lui envoya, par l'intermédiaire d'ambassadeurs venus auparavant le remercier et qui avaient rapporté avoir vu sur sa table des vases de terre cuite, des vases d'argent destinés à tous les usages d'un poids considérable et d'une exécution exquise. Donc, il y a les ambassadeurs, ils voient que le consul romain, qui était en guerre en Grèce, et qui se servait à sa table de la vaisselle en terre cuite. Donc il retourne et il lui apporte des dons. Ça on voit qu'on le fait aujourd'hui. Il y a des consuls d'aujourd'hui qui acceptent par exemple des avions. Et donc c'est un peu la stratégie des dons. Mais Sextus Elius n'était pas de cette nature. Il leur conseilla de ne pas supposer que la tempérance ait besoin d'assistance comme la pauvreté. Donc il distingue, je ne suis pas pauvre, c'est un choix. Et donc la tempérance n'a pas besoin d'assistance comme la pauvreté. Et leur ordonna aux ambassadeurs, de répartir avec leurs bagages, leurs dons. Combien, c'est le commentaire de Valère Maxime deux siècles après, combien Sextus Elius eut raison de préférer des objets domestiques très simples aux richesses étoliennes, si seulement l'époque postérieure avait voulu suivre l'exemple de sa frugalité. Mais où en sommes-nous arrivés ? On peut à peine empêcher des esclaves de mépriser une vaisselle des terres qu'un consul n'avait alors pas honte d'utiliser. Donc, c'est un peu une conclusion amère. Il dit, oui, il a fait un très beau geste, mais la posterioritas, l'époque suivante, l'époque plus récente, a changé de caractère, disons. Alors, le protagoniste de cet épisode, Sextus Elius, est un juriste, un grand juriste, franchement. Ce qui rend le lien intertextuel qu'on a décelé, ce deux mots, posterior etas, qui, disons, font la liaison entre le texte de Papinien et le texte de Valère Maxime, qui rend ce lien intertextuel plus remarquable encore. Je le répète, le nom qu'on voit paraître dans le texte est différent, mais tous les savants s'accordent sur le fait que le protagoniste est Sextus Elius. Donc, c'est lui qui a refusé la vaisselle en argent que les Étoliens lui avaient offerte. Alors, il est difficile de penser vraiment tout considérer que Papinien n'a pas eu dans sa mémoire littéraire ce texte de Valère Maxime, d'autant plus que Sextus Elius était considéré un peu comme le fondateur de la littérature juridique romaine, c'est-à-dire son ouvrage est le premier ouvrage qui commence cette longue enfilade de textes que les juristes romains ont rédigé. Mais un élément supplémentaire nous ramène à Sextus Elius. Et ici, les choses vont être un peu exigeantes. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Car un autre juriste aussi, donc j'essaie de renforcer ce lien avec Sextus Elius, qu'on a déjà commencé à entrevoir grâce au texte de Papinien, celui de Valère Maxime. Je vous présente un autre texte d'un autre juriste, élève ou quand même collaborateur de Papinien. Donc il a écrit un peu plus tard que Papinien, en décennie, quelque chose comme ça. Et il était, disons, un collaborateur dans le cercle de Papinien. Il s'agit de Paul. Ceux qui ont suivi mes cours dans les années précédentes savent que c'est l'un de mes préférés parmi les juristes romains, car comme son maître, il fait preuve d'imagination, tout en étant moins difficile de Papinien. Et je me le représente volontiers avec un caractère plus joueur et en même temps plus modeste, je ne sais pas comment. Peu importe la matière dont sont faits les objets qui relèvent de la supellex, dit Paul. Toutefois, selon la sévérité de l'époque, qui n'admettait pas encore une vaisselle d'argent, ni un cratère d'argent, ni aucun vase d'argent ne faisait partie de la supellex. Donc c'est une phrase, on va voir pourquoi, un peu compliquée, qui dit, alors d'abord, ce qui compte, c'est pas la matière, mais c'est la fonction. Toutefois, il y, y a une contradiction avec ce principe. Toutefois, selon la sévérité de l'époque, qui n'admettait pas encore une vaisselle d'argent, ni un cratère d'argent, ni aucun vase d'argent ne faisait partie de la supellex. Alors, la première partie du texte répète le principe habituel, celui que nous avons vu chez Cels, chez Papinien, mais la suite du texte est très intéressante car on introduit encore une fois une rétrospective. Paul rapporte que, jadis conformément à la sévérité de mœurs d'une époque qui n'admettait pas encore l'usage d'une vaisselle d'argent, quelqu'un, manifestement un juriste, s'était prononcé contre l'inclusion d'objets en argent dans le mobilier domestique. Ni un cratère d'argent, ni aucun vase d'argent ne faisait partie de la vaisselle. Et c'est qui ce juriste? Il demeure mystérieux, car la fin du texte de Paul présente précisément à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver son nom, une lacune. Alors, qu'un nom et un verbe de parole devaient figurer ici ne fait aucun doute, car la phrase précédente, vous voyez très bien, est à l'infinitif. Donc cette phrase requiert un verbe qui régit cette phrase. Alors, qui était selon vous ce juriste qui excluait les objets d'argent du mobilier? Alors, voyons si vous êtes du même avis que Theodor Mommsen, qui a proposé de restituer le nom. Tout simple, Sextus Elius, bien évidemment. On fait de la philologie indirecte, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut que Mommsen a restitué le texte, a complété le texte et qu'il faut le lire. Peu importe, on peut lire la matière dont sont faits les objets qui relèvent de la supellex. Toutefois, selon, disons, en cohérence avec la sévérité de l'époque qui n'admettait pas encore une vaisselle d'argent, ni un cratère d'argent, ni aucun vase d'argent ne faisait partie de la supellex, affirmait Sextus Elius. Alors, nous avons ici donc un cas où, pour ainsi dire, les mœurs d'une époque et les juristes qui les catégorisent coïncident. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a d'une part Sextus qui est celui qui donne un peu le ton de la frugalité de l'époque, parce qu'il avait refusé de se servir de la vaisselle d'argent qu'on lui avait apporté, c'était les ambassadeurs étoliennes qui lui avaient apporté un don. Mais c'était aussi un juriste qui, manifestement, avait exprimé dans son ouvrage le refus d'inclure la vaisselle d'argent, le cratère, notamment, on sentait le mot grec, d'argent dans le mobilier domestique. Donc il y a cette coïncidence parfaite entre un juriste qui incarne aussi les mœurs d'une époque. Alors, on peut résumer, comme suit les éléments qui se dégagent des textes que nous avons examinés. Alors d'abord, il y a le point de départ constitué par Sextus Elius. Ensuite, il y a la définition de supellex qui a été conçue par Tubéron à l'époque d'Auguste et qui est rapportée par le juriste Cels au IIe siècle après Jésus-Christ. Et c'est une définition qui met en avant la primauté de la fonction, c'est-à-dire de l'aspect, de l'espèce sur la matière. Primauté de la fonction sur la matière de l'objet. Ensuite, selon Papinien, au début du IIIe siècle, après Jésus-Christ, les tables, les lits, les candélabres en argent étaient déjà inclus dans la, sous Pélex. Et Paul, quelques décennies plus tard, reconnaît qu'à son époque, les vases d'argent, la vaisselle d'argent et les candélabres d'argent font partie du mobilier domestique, mais qu'à l'époque de Sextus Elius, ils en étaient exclus. Donc, on revient en boucle au même point de départ. Il y a donc des objets qui ont connu une histoire marquée par la transition d'une catégorie à une autre, de la catégorie des objets de luxe à celle d'objets d'usage courant, une histoire dans laquelle la matière est passée au second plan par rapport à la fonction. Alors, je vous présente cette même évolution. Je dois cette magnifique diapo à François Vaquet. C'est la même dynamique. Vous pouvez voir que dans un premier temps, à gauche, le mobilier domestique se limitait à des biens réalisés à matériaux modestes. Puis, la catégorie s'est étendue à l'ensemble des objets ayant une fonction domestique indépendamment de leur matière. Et cette évolution s'est opérée entre Sextus et Elius. Vous voyez cette évolution environ au deuxième siècle avant Jésus-Christ, après le consulat de Sextus Elius, mais avant Tubéron. Parce que Tubéron, déjà à la fin de la République, intègre cette idée que ce n'est pas la matière qui compte, c'est la fonction. Alors, ainsi disséqué, et mise en lien avec d'autres textes, la réponse de Papinien ne semble plus recéler des zones d'ombre, mais à bien y regarder, il en subsiste une incongruité. Alors, avant de l'aborder, arrêtons-nous brièvement sur la citation de l'Odyssée, qu'on pourrait dire incluse, encadrée dans l'argent du texte de Papinien, afin d'en apprécier d'abord la qualité littéraire. Il dit d'ailleurs, Ulysse avait lui-même orné d'or et d'argent un lit construit à même les troncs d'un arbre vivant que Pénélope reçut comme signe permettant de reconnaître son mari, ainsi que le veut Homère. Alors, quand juriste cite Homère ou Virgile, c'est rare, mais ce n'est pas complètement exceptionnel. La mention de l'Odyssée n'en est pas moins ici d'un raffinement singulier. Car Papinien condense, vous l'avez vu, c'est pour ça que je vous ai lu le texte homérique en entier, Papinien condense en un peu plus d'une ligne l'ensemble de l'épisode de la reconnaissance d'Ulysse par Pénélope. Il ne se borne pas à mentionner le lit, mais le restitue à sa valeur narrative en mobilisant le terme clé « signum ». Donc il avait bien saisi que tout tournait autour de sema, de signum, de signe, du secret. Et cette condensation remarquable témoigne, me semble-t-il, d'une maîtrise de l'abstraction comparable à celle que l'écriture juridique déploie normalement dans la réduction à l'essentiel des faits sociaux. S'il est si efficace à condenser l'épisode homérique, c'est parce qu'il a cette capacité qu'il déploie tous les jours de réduire la complexité du monde réel à ces catégories juridiques. Alors, quelle est l'incongruité? Quelle est la tension qui se cache dans ce texte? Alors, on le sait très bien, c'est toujours là où il y a une tension que le sens se manifeste avec plus de force. Ce sont les points de tension, ce sont les signifiants. Alors, Papinien affirme, comme nous venons de le voir, qu'une époque postérieure, une époque plus récente, admit dans la Supellex les lits d'argent, les candélabres. Et nous savons aussi, grâce au rapprochement avec le texte de Valère Maxime et celui de Paul, que ce changement est sans doute intervenu au cours du deuxième siècle avant Jésus-Christ, mais après, c'est un point de départ très important, après Sextus Eliuus, un tel scénario n'a en soi effectivement rien de surprenant. C'est justement l'époque qui, avec des bornes chronologiques variables aux yeux des Romains eux-mêmes, de la défaite de Carthage en 201 à la destruction de Carthage et de Corinthe en 146, était considérée par les Romains comme celle où, sous l'effet de l'avarice, Rome se transforma et le pouvoir, l'impérium, passa de très juste et excellent à cruel et intolérable, selon la formule célèbre de Salluste que j'imagine vous avez entendu cette traduction. Mais la difficulté demeure toutefois. Si selon le témoignage d'Homère, l'ornementation d'Élie en or et en argent et même en ivoire est attestée depuis l'époque archaïque, pourquoi attendre le deuxième siècle pour les admettre dans la Supellex? Il faut alors déplacer l'angle de lecture. Papinien ne recherche pas ici une attestation chronologique, mais une légitimation sur le plan des valeurs, de l'idéologie, on pourrait dire sur le plan axiologique, plan des valeurs. Et c'est ici que nous comprenons que le lit avec son olivier est une métaphore ou une allégorie. Ce ne sont pas exactement la même chose, mais... Le lit d'Ulysse rattaché à un arbre vivant symbolise la solidité du patrimoine familial, enraciné et durable. Cette image renvoie aussi à la stabilité du mariage, conçu comme une union fondée sur une base en même temps vivante et résistante au temps comme aux épreuves. Ainsi, dans le texte de Papinien, la citation poétique contribue à une forme de normalisation du luxe par le biais du contexte narratif qui évoque les aventures d'Ulysse et la portée symbolique que ce lit magnifique avait acquise comme signe de fidélité. Mais la poésie, surtout lorsqu'elle est comme ici imprégnée de beauté, d'humanité, à des résonances multiples, ne saurait être réduite à une signification univoque, d'autant plus lorsqu'elle est accueillie dans le texte d'un autre auteur d'une profondeur exceptionnelle, comme ici Papinien. Ainsi, alors même qu'il invoque ces vers afin de normaliser l'usage des richesses, Papinien parvient, avec beaucoup de finesse, à reporter l'origine et plus encore la responsabilité du raffinement excessif sur les Grecs, jusque dans l'horizon de l'époque homérique. C'est au fond la même origine, c'est le luxe grec qui revient dans l'anecdote de Sextus Eliuus, tel qu'il est rapporté par Valère Maxime, Sextus Eliuus qui refuse la vaisselle d'argent que lui offrent les Étoliens. D'ailleurs, vous savez, le luxe, le mot luxe et le mot luxure sont aussi métaphores. Ce sont des mots qui désignent à l'origine un végétal qui pousse de travers, de manière excessive, tordue, et la luxure, la luxuria, ainsi un excès dévié qui pousse ensuite du monde végétal à la représentation du vice chez l'homme. Quoi qu'il en soit, dans le raisonnement de Papinien, la mention du lit d'Ulysse confirme le tournant jurisprudentiel qui mettait au premier plan la fonction des objets relevant du mobilier domestique, sans égard pour leur matière. Le tronc constituant la partie fixe du lit devient aussi la métaphore, l'allégorie de l'appartenance, pour ainsi dire indéracinable, du lit à la catégorie du mobilier domestique. Au fond, nous aussi, lorsque nous lisons les textes, nous devons les reconnaître à travers les signes secrets. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.